La Nouvelle Bouquinerie, l'émission des littératures de Radio Campus Paris. Une heure pour explorer des fictions, des romans, des récits, pour mieux nous comprendre. S'écouter. Il est parfois question d'un art ou encore d'un astre. D'autres disent qu'il est question de salut. Il n'y a rien à faire dans des centaines de domaines, et c'est justement ce qui déstabilise. Les sages orientaux ont un concept, le Wu Wei. La langue française pourrait le traduire comme « tout passe, tout est éphémère ». La flamme, elle, demeure, celle de la soif des mots et de l'aspiration à ce que chacun s'épelle, s'écoute et puisse offrir le repos. La Nouvelle Bouquinerie s'ouvre pour ce mois de décembre avec la présence d'Adrien Born. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Nous sommes très très contents de vous accueillir à la Nouvelle Bouquinerie pour parler de votre dernier livre, L'île du Là-haut, paru chez J.C. Lattès. Aujourd'hui, nous parlerons également du phare, de Gisèle, de Mon petit loup, de préfacé par le juge Édouard Durand et coordonné par Nicolas Pulluen, qui sera également avec nous aujourd'hui, avec qui nous aborderons les violences sexuelles faites aux enfants, thème qui m'est cher et qui est cher aussi à notre invité. Et donc, nous pourrons aborder tous ces ouvrages, ces récits, ces propos autour de nos mots et de nos conversations. La Nouvelle Bouquinerie. Radio Campus Paris. Il est 20h01 et nous sommes avec Adrien Born. Bonsoir de nouveau. Comment vous est venue l'idée de ce livre, L'île du Là-haut ? Comment ça a apparu à votre esprit ?
C'est apparu d'abord dans une mythologie familiale, puisque la tuberculose, puisque c'est ce dont on parle à travers L'île du Là-haut, a traversé ma famille, un grand-père tuberculeux, un père tuberculeux, qui conservait de cette expérience en sanatorium un secret. Un silence, plus qu'un secret d'ailleurs. Mais derrière un silence, on a tendance à mettre un secret. J'ignore s'ils avaient des secrets. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'en parlaient pas et qu'ils refusaient d'en parler. Et ça, c'est mécaniquement pour celui qui aime écrire, déjà une opportunité, une fenêtre ouverte. Pour autant, il y a une littérature de sanatorium, déjà assez conséquente. Donc moi, je n'avais pas envie d'écrire à nouveau sur la vie en sana, pas seulement la vie en sanatorium. Et le temps m'a mené là-haut, justement, pas très loin de Chamonix, sur ce qu'on appelle le plateau d'Assy, c'était il y a quelques mois. Et j'ai découvert que sur les 5 grands sanatoriums qui avaient été construits dans les années 20-30, 3 étaient à l'abandon, à pourrir sur pièce. Et là, je trouve qu'il y a soudainement une nouvelle matière romanesque qui s'offre à moi et l'occasion de remplir des silences en racontant la trajectoire et l'abandon de ces lieux qui ont perdu de leur sens, qui ont perdu leur malade. Alors on pourrait s'en réjouir. Après tout, un lieu de santé qui ferme, c'est un lieu qui n'a plus de malade. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse à l'abandon ? Ça, c'était peut-être mon point central.
Alors la maladie traverse l'histoire de la littérature et des littératures. On pense notamment à Camus, avec la peste. Comment la maladie, alors on vous a bien entendu, Adrien, je vous ai bien entendu sur la question de vos lignées paternelles, en tout cas votre lignée paternelle qui était touchée par cette maladie. En quoi, dans le livre, cette maladie, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a un langage très recherché, technique du champ médical, en tout cas, on sent qu'il y a une recherche de votre part qui a été faite sur les termes exacts. Dans quelle mesure ça peut aider d'aller chercher tout ce champ de connaissances pour peut-être se libérer ? Est-ce qu'il y aurait eu ça dans votre intention ?
Il y a de toute manière un objet de libération en général, mais en particulier sur la question des épidémies. Moi, c'est un point qui a traversé qui traverse mes 3 romans. Le premier tourné autour de la grippe espagnole. Le deuxième, et on parlera du sujet avec Nicolas notamment, autour des violences sexuelles, qui est une forme d'épidémie à mes yeux. Et voici donc la tuberculose. Et c'est vrai que j'entretiens une relation avec la question de l'épidémie, de la contagion, mais plus exactement avec la figure du pestiféré. Puisque le tuberculeux n'est rien d'autre qu'un pestiféré, un infréquentable. Comment devient-on infréquentable ? Certes, par la maladie, et puis comment peut-on ne plus devenir un infréquentable ? Et je crois que la part de libération dans la technicité des termes que je suis allé chercher, c'était surtout essayer de me dire quels sont les outils pour qu'on puisse re-rentrer dans le champ de la société. Parce que littéralement, quand on était tuberculeux, on était envoyé loin. Envoyé loin. On était exilé. Pour notre bien, c'était en tout cas l'objet. Mais il y a quelque chose de l'exil forcé. Donc, quels sont les outils techniques pour nous permettre de revenir dans le champ des vivants. C'était un peu ça que je voulais comprendre. Et c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle, ça n'a absolument rien de drôle d'ailleurs. Mais il y a des techniques qui racontent tout, qui étaient notamment une technique d'affaissement du poumon. Quand on avait un poumon contaminé, on l'affaissait, on le faisait se réduire pour que, il ne servait plus à rien, mais dès lors, il ne devenait plus un élément constitutif de la maladie. Je trouve que c'est très symbolique de se dire, on revient dans le champ des vivants en ayant perdu un poumon, en ayant un poumon affaissé. Et souvent, cette opération qui se faisait à droite ou à gauche entraînait une conséquence physique sur le malade, c'est qu'il penchait à droite ou à gauche selon le côté de l'opération toute sa vie. Il était légèrement tordu. Et c'est là que je trouve que les maladies vous tamponnent à jamais au fer rouge. C'est quelque part, est-ce qu'on peut guérir de sa figure du pestiféré ? En tout cas, même quand on rentrait après avoir été opéré, il y avait quelque chose qui rappelait aux autres qu'on en avait été de cette figure-là.
Alors, je vais lire un extrait. La peste blanche est morte jusque dans les traces noires de nos siècles de contamination. C'est un vieil homme qui aimerait savoir s'il a été utile à quelque chose, au fond. Et si les fantômes sont prêts à lui faire une place dans leur beauté, c'est un vieil homme qui voudrait faire une dernière chose encore.
La dernière chose, et peut-être que c'est la vocation de l'écriture, c'est faire en sorte qu'on n'oublie pas. Ce qui m'a frappé, c'est que... cette maladie, elle a touché je l'ai vu en allant de librairie en librairie, des milliers de gens sur des dizaines d'années. Des milliers de familles ont été traversées par cette maladie. Et quand vous allez sur le plateau d'Assy, où il y a eu jusqu'à 2000 malades en même temps, il n'y a pas une plaque, il n'y a pas un mot, il n'y a pas un panneau, vous savez, qu'on voit dans les rues de Paris, partout, qui raconterait ne serait-ce qu'en quelques lignes, ce que là-haut, certains ont traversé. Et est-ce que j'ai été utile à quelque chose ? C'est finalement, indirectement, à travers ce personnage, la question que je me pose moi. C'est-à-dire, est-on utile à écrire ? Autrement qu'à divertir ? C'est une question à laquelle je réponds pas vraiment, mais que j'essaye de porter.
Alors en tout cas, peut-être qu'on peut tout concilier, ce thème du sanatorium, en tout cas nous emmène aussi peut-être sur, et de cette plaque que vous évoquez, sur c'est des enfants qui parfois aussi sont agressés. On va aborder tout de suite le livre de Nicolas Pulluen, qui va être d'ici quelques instants avec nous. Et de ce fait, il n'y a pas de plaque qui indique, par exemple, devant le centre de Riaumont, dans le nord de la France, dont il y a un documentaire qui a été fait, qui est encore disponible sur Arte, sur ces enfants qui ont été torturés par des hommes. Il est question de sévices sexuels, de torture, sur des enfants, des petits garçons, surtout abîmés à vie. Et il n'y a pas de plaque pour rappeler, ici, ont été agressés des enfants, de la même façon qu'il n'y a pas de plaque pour ces hommes ou ces femmes tuberculeuses. Et de ce fait, on peut peut-être aussi divertir. En tout cas, c'est le pari de Nicolas Pulluen. Bonsoir, Nicolas. Le Luen, dans le livre-album Mon Petit Loup, qui réunit les ogres de Barba, qui réunit également Maïlan, mais également Catherine Ringier, l'ancien chanteur des Innocents, le pari, c'est de réunir, de divertir avec des chansons fortes, belles. Comment, justement, il est parfois difficile de vivre avec, le poids de ses souffrances, mais également de pouvoir repartir en chanson, dans l'allégresse d'un chant, d'une chanson. Mon Petit Loup, le livre disque de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, préfacé par le juge Édouard Durand, ancien président de la Civise. Et nous pouvons aborder directement avec le coordinateur et initiateur du projet, Nicolas Puluen, quelques mots sur ce projet. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis à Mayotte.
On vous entend très bien, y compris à Mayotte. Je suis en compagnie d'Adrien Borne.
Que j'écoute avec passion, parce que j'ai pas eu l'occasion de lire son livre encore. Et c'est marrant, parce que quand il parle du secret, moi je sais que mon père, quand il a fait l'armée, il a été placé pour tuberculose. Mais voilà, c'est la seule information que j'ai. Je sais pas combien de temps ça a duré, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai juste entendu dire ça dans la famille, mais on n'en parle pas non plus. C'est marrant, c'est secret.
Alors moi, j'ai une question à vous poser, Nicolas. C'est quoi votre secret pour avoir autant d'énergie et d'avoir réussi à mobiliser autant de personnes pour Mon Petit Loup, qui est préfacé, je rappelle, par Édouard Durand, et surtout que vous avez initié, Nicolas, vous avez réuni tous ces artistes, je le rappelle, Mayline, La Rue qui est à nous, Albin de la Simone, Jean-Pierre Nataf, Minibus, Magie de Cherfi, et je vous laisserai peut-être aborder d'autres noms que je n'ai pas cités.
Ben écoutez, je pense que l'énergie que j'ai pour faire ça, c'est avant tout, je pense que c'est pas vraiment c'est pas un atout, je pense que c'est plutôt une pathologie, hein, puisque moi, depuis ma plus petite enfance, il a fallu que je fasse ce qu'il fallait pour rester en vie et pour ne pas être colonisé par ces images qui m'ont jamais lâché, en fait, et donc j'ai tout le temps été dans l'action. Et j'ai toujours bossé pour l'école, pour mon travail, pour les associations, pour des choses qui faisaient que j'étais en permanence l'esprit occupé. Il y a eu ça, il y a eu aussi tous les psychotropes qui sont passés par là pendant des années, qui ont atténué un peu les souffrances avant de les rendre plus difficiles, plus compliquées. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je vis, c'est un terrain qui est ma personnalité et qui a été construite autour de ce que j'ai vécu dans ma petite enfance.
Alors du coup, ces chansons, est-ce qu'elles vous ont permis de reprendre un peu de force? Parce que nous, ça nous en a redonné. En tout cas, moi, je ne vous cache pas que c'est le cas.
Oui, clairement, ça m'a redonné de la force. C'est toujours un équilibre très compliqué, puisque vous voyez, là, tout le mois de novembre, je l'ai passé à défendre l'ouvrage, à parler de ça plusieurs fois par jour, à répondre à beaucoup de questions plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que c'est une grande fierté pour moi d'avoir réussi à transformer ce paquet de merde, puisqu'on peut l'appeler comme ça, en quelque chose de beau et de joli et d'utile. Mais il faut que je trouve l'équilibre encore aujourd'hui entre cette utilité que je peux avoir dans mon combat et dans mon état psychologique, puisque moi, je parle pas de guérison. Dans mon cas, il y aura jamais de guérison. Il y aura toujours une souffrance. Il y aura toujours ces images qui m'atteignent moins aujourd'hui ou de manière différente, mais qui sont là de manière indélébile. Donc c'est aussi, pour rejoindre Adrien, c'est que l'écriture a aussi cette force-là de permettre d'évacuer certaines choses, de les mettre noir sur blanc pour pouvoir les inscrire et peut-être passer à autre chose, mais passer à autre chose qui traitera parfois du même sujet. Et moi, la musique, ça a été ma bouée de sauvetage. Toute ma vie, c'était la musique. Et aujourd'hui, ça ne pouvait pas être autrement que de traduire ce combat par quelque chose de musical, comme l'ouvrage qu'on a sorti et qui n'est qu'un début, puisque vous parlez d'énergie, mais j'en ai encore pas mal et qu'on est déjà en train de bosser sur le deuxième. Quoi.
Vous restez avec nous quelques instants, on va justement écouter un peu de musique, Amatorski, Never Told, et on se retrouve après. D'écouter le petit coin de lecture.
Le petit coin.
Il y a quelqu'un ?
Lecture.
C'est occupé.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je lis.
Le petit coin.
Une chronique littérature jeunesse de
Julie,
Mathilde
et Marie.
Tu lis quoi ?
Aujourd'hui, on vous parle de Le jardin des ours de Fanny Ducassé. Depuis que ses grands-pères ne sont plus, c'est la pagaille dans la tête du petit ours.
Les souvenirs colorés emplissent mes idées, dansent et se cognent dans ma tête. Si bien que parfois, je ne sais plus m'y retrouver.
Alors, il imagine un jardin.
Comme une maison où sirotaient des souvenirs colorés.
Un lieu de rêve pour penser aux doux moments partagés avec papy et pépé. Ce qu'on aime au petit coin lecture.
On aime ce certain lieu retrouvaille.
Petit ours crée dans sa tête un lieu pour ses souvenirs.
C'est pas qu'il veut s'en débarrasser, hein.
Oui, il veut les mettre à distance, leur faire une place, pouvoir les retrouver à des moments choisis.
On aime les souvenirs matière sensible.
Fanny Ducassé suggère tout en douceur le sensible des souvenirs. Ils prennent la forme
d'odeur, l'air du soir sans le linge propre et la terre mouillée. De couleur. Chez papy sur le rebord de la baignoire, il y a une drôle de fiole bleue. De sang. Dans mon jardinet, à l'ombre du ciel pleureur, on entend aussi pépé ronfler.
Coucou.
À l'heure du goûter, nous mardons dans nos tartines de beurre salé. On aime la complicité, grands-parents et petits-enfants.
Grâce à la délicatesse de son crayon et la poésie de cette ronde de souvenirs, Fanny Ducassé parvient tout à fait à restituer la tendresse du lien entre grands-parents et enfants.
Oh, c'était le petit coin lecture.
Aujourd'hui avec Le Jardin des ours de Fanny Ducassé, un livre paru aux éditions Thierry Magnier en 2015.
J'ai fini.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous êtes toujours en compagnie d'Adrien Borne pour la nouvelle bouquinerie qui nous parle de l'île du Là-Haut. Nous sommes également toujours avec Nicolas Pulluen par téléphone qui est du côté de Mayotte pour aborder Mon Petit Loup. Est-ce que vous avez pu entendre la chronique jeunesse, Nicolas ?
Oui, tout à fait. Attentivement, je l'écoutais.
Alors, est-ce que du coup, vous aussi, vous avez des appétences à lire dans des petits coins ?
Eh bien oui, effectivement. Bon, mais oui. La lecture, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. Et comme la lecture n'est pas forcément quelque chose qui est abordable pour tout le monde, sauf...
Ça a lâché. Ah, on a des petits problèmes de connexion, donc on va pouvoir continuer à aborder l'ouvrage de Nicolas en fonction des ondes hertziennes. Est-ce que vous connaissiez le projet Mon Petit Loup, Adrien ?
Je l'ai découvert parce que Nicolas m'en a, à travers les réseaux sociaux, partagé le contenu et l'idée. J'ai trouvé ça formidable. J'ai eu la chance de voir une partie de ces artistes sur scène pendant un concert qui a duré une heure. Je crois que Nicolas l'exprimait tout à l'heure, il y a une ligne de crête sur laquelle on est quand on parle de ces sujets. Il y avait un mélange sur cette scène et dans ce disque de joie sincère et de grande tristesse, parce que ce sont des sujets qui sont pénibles, que la chanson de Mylan est d'une puissance folle, qu'elle est aussi belle que triste, et il faut accepter ces deux faces. Je pense que marcher avec ces deux faces-là est une bonne chose, et moi ça m'a fait du bien. D'être là-bas dans le public, d'écouter, de voir Nicolas sur cette scène et tous les artistes qui sont venus, et ça m'a fait du bien, ouais.
Donc Nicolas, vous avez entendu, Adrien était présent, moi ce n'était pas le cas et je m'en excuse. Non, même si nous étions vus,
je peux même rajouter quelque chose, c'est qu'avec Adrien on ne s'est jamais rencontré, on a correspondu un petit peu via les réseaux sociaux parce que moi j'avais lu son premier livre que j'avais aimé. Et ça faisait partie des artistes avec qui j'avais partagé mon aventure musicale. Et quand j'ai pris la parole ce jour-là, pour annoncer l'heure qui allait suivre, l'heure de musique, et en fait, je l'ai vu au milieu, et en fait, j'ai vu que lui au milieu. Je sais pas si... Je lui ai envoyé un message après, mais en fait, voilà, je l'ai vu. Et après, on ne s'est pas vu. En fait, donc, on n'a jamais vraiment parlé, mais c'est quand même assez marrant de se retrouver ensemble sur cette émission. Moi, je suis ravi en tout cas.
Alors, vous faites allusion, Nicolas, à Mémoire de soi, dans
oui,
lequel. Est-ce que vous pouvez partager une impression de lecteur, Nicolas, pour Adrien ? Parce que là, du coup, on est dans une rencontre entre deux auteurs, puisque je rappelle aussi que Nicolas, vous écrivez. Donc, partage de lecteur-auteur, qu'est-ce qui s'est passé pour vous à la lecture de Mémoire de soi ?
Bah après, j'ai lu il y a très longtemps, hein, mais enfin quand il est sorti, donc ça fait un petit moment, j'en ai lu beaucoup entre-temps. Mais moi, ce qui m'avait déjà interpellé, c'est que c'était un domaine qui était assez marquant pour moi, puisqu'en plus, on parlait de verre à soie, de cette activité qui était en fait la première activité que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler. J'étais responsable logistique dans une usine qui s'appelait Well, et qui faisait des collants et des chaussettes et qui était basé au Vigan. Donc voilà, donc j'étais quelque part, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'était... Et puis le récit, forcément, moi, j'ai accroché tout de suite, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les personnages, et forcément, ça m'a touché, oui. Et j'ai hâte de lire le dernier, d'ailleurs.
Donc on rappelle, le dernier, c'est L'île du Là-Haut.
Et je vais l'offrir à mon père, d'ailleurs, tiens, à Noël.
Merci Nicolas.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, la nouvelle bouquinerie, en présence d'Adrien Borne pour son livre « L'île du là-haut » paru chez J.C. Lattès. Un projet comme celui-ci, Adrien, qui suit de d'autres projets d'écriture, « Mémoire de soi »,« La vie qui commence »,« D'après Carmen ». En tant qu'auteur, quand on regarde son œuvre, en tout cas si on fait cet effort ensemble, à tous les deux, de regarder vos ouvrages avec ce dernier, quel regard vous posez sur l'ensemble de ce qui constitue une œuvre, en tout cas un ensemble d'ouvrages?
Quel regard? C'est une belle question. J'essaye de voir les lignes directrices. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles sont mes cohérences ou quelles sont mes incohérences, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé au personnage de Carmen, par exemple, pour un public plus jeune? Parce que c'est une femme, d'une force incroyable qui est sans cesse renvoyée à une morale. Et comment on s'émancipe de la morale d'une époque, la morale qu'on fait sur le dos des femmes en l'espèce, au point qu'on ne supporte pas qu'elles soient comme elles ont envie d'être et au point de les tuer. Je trouve que c'est un personnage d'une puissance incroyable et d'une grande modernité, même si je déteste cette formule. Pourtant, c'est précisément le cas, je trouve, sur le cas de Carmen. Et puis la question dont je vous parlais tout à l'heure, c'est comment est-ce que finalement on sort de son statut de malade, de victime, de pestiféré. Je pense que c'est vraiment la trajectoire qui habite qui traverse mes trois romans. Comment on arrive à sortir de cette fatalité. Voilà.
Il y a un questionnement de ce qui est en dehors de la scène, dans le sanatorium, on l'entend bien, on va faire du hors-champ, si on veut reprendre le vocabulaire du cinéma. Dans ce hors-champ que vous créez, qu'est-ce qui infiltre vraiment? Parce qu'il y a une écriture, en tout cas, qui prend différents matériaux chez vous. De fait, il y a quelque chose quand même qui se diffuse, il y a une vie profonde. Est-ce que vous pourriez nous la décrire?
Alors, je vais répondre à votre question sur le hors-champ. Je pense qu'il y a une question, c'est de hors-champ qui est posée, c'est la question de la foi. C'est-à-dire, vous m'arrêtez si je ne réponds pas du tout à votre question, mais Je crois que ce qui était très beau dans ces sanatoriums, au fond, c'est qu'on croyait au soleil. Aller prendre le soleil et le grand air à la montagne, sauf erreur de ma part, ça n'a jamais démontré, on n'a jamais démontré d'un point de vue scientifique que c'était une manière de guérir. C'était moins pire que d'être dans une petite rue sordide, encaissée dans un centre-ville, une rue humide, vous voyez, ou un logement humide. Mais on croyait à quelque chose qui, au fond, n'avait pas de sens médical. Et j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup m'en rapprocher le plus possible. Nicolas Pullen, il disait tout à l'heure, j'ai pris beaucoup de psychotropes en tout genre, hein, je crois qu'il a dit ça tout à l'heure. En tout cas, il s'est soigné comme il a pu. Et moi, à un moment, pour me soigner des agressions sexuelles que j'ai vécues quand j'étais enfant, je suis allé dans l'Amazonie. J'ai rencontré des chamans, j'ai passé là-bas 3 semaines, 1 mois. Et ces chamans, ils croyaient dans la puissance des arbres. Et je ne les ai pas trouvés plus stupides ou arriérés que nous qui gobons des médicaments. Et je crois que les sanatoriums, c'est un peu de cet ordre-là. On croyait dans la puissance d'un soleil, en l'occurrence. Mais au fond, ça n'allait pas chercher autre chose que une foi qui peut guérir parfois. Il y a quelque chose de touchant et de sincère là-dedans et qui m'a beaucoup plu et qui est, je pense, le vrai hors-champ de ce roman.
La question des médecines de l'âme, quand les vécus et les destins sont si forts, pose aussi dans certaines traditions, y compris chamaniques et d'autres, la notion du karma. Savoir que dans certaines croyances, il est dit que nous nous incarnons et nous nous réincarnons et qu'il y a des choses et des obstacles à franchir. Est-ce que cette notion de dépassement dans un univers quand même fini est quelque chose qui est présent? Parce que dans le livre, moi j'ai en tout cas eu ces questionnements qui sont nés sur la finitude justement et en lien avec la fin de votre livre qui nous met sur un suspens, qui nous place sur cette fin que j'ai lue tout à l'heure. Est-ce que c'est une réflexion qui est proche de vous?
Oui. D'ailleurs, vous écrivez, c'est peut-être le propre de l'écriture d'ailleurs, hein, c'est d'aller chercher ces transferts-là un petit peu. Et c'est marrant parce que récemment, quelqu'un m'a dit « Toi, tu es une vieille âme ». Alors, j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Et pourtant, ça me travaille. Et je pense qu'il y a dans mes livres beaucoup de personnages qui sont de vieilles âmes, comme si elles avaient traversé comme ça, des espèces de chevauchements. C'est pas loufoque que de dire ça. C'est juste une forme de perception du monde, finalement, que je trouve assez douce. En tout cas, qui, moi, quelque part au fond, sans autre forme de preuve, me rassure un peu.
Est-ce que écrire, c'est aussi rassurant de pouvoir... est-ce que c'est une invitation au dépassement des épreuves, selon vous?
C'est une participation à la réappropriation. Je crois vraiment à ça. Dans mon deuxième roman, La vie qui commence, j'ai décidé de m'emparer de mon histoire personnelle, donc de ces agressions que j'ai vécues enfant, comme tant d'autres. Et la proposition m'avait été faite d'en faire un récit. C'est-à-dire raconter de A à Z ce qui m'était arrivé factuellement, etc. etc. Et pour moi, c'était hors de question. Et je pense que l'espace du roman est un espace, alors j'ai ce privilège-là et je mesure la chance que j'ai, mais qui est un espace de réappropriation. La vie qui commence, cette histoire, mon histoire, je l'ai racontée avec mes couleurs, avec mes personnages, avec mon décor. Et c'est non pas une manière de déni, mais c'est une manière de reconstruction. Si vous voulez, récemment on m'a dit « mais à quoi sert d'écrire ? Peut-être qu'à chaque fois que j'écris, je recolle un peu des morceaux de cette vie qui s'est cassée à ce moment-là. Simplement, ces morceaux, je les remets dans l'ordre que j'ai choisi pour refaire finalement une image de mon choix, un paysage de mon choix. Parce que on n'en finit jamais de recoller les morceaux, ça aussi Nicolas le disait, mais au moins la possibilité de recoller dans l'ordre que l'on souhaite, eh bien, il faut pouvoir s'en emparer. Moi, je le peux. C'est ainsi que je prends les choses.
Alors Mishima, l'écrivain japonais, disait « Donnez-lui un masque, il vous dira la vérité ». Le travail du personnage, du latin personae, est-ce que c'est plus simple en fin de compte pour dire le vrai ?
Sous certains aspects, oui. Parce qu'on ne vous fait pas... Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la question qui m'est le plus souvent posée. Quelle est la part de vrai dans les romans ? Et pour moi, c'est une question finalement très secondaire. C'est une question vraiment infiniment secondaire. Et pour autant, je me dis que mon discours est plus audible parfois à travers le roman que si j'avais à prendre la parole pour je ne sais quelle circonstance, pour raconter le vrai. Mais peu importe. Et oui, par exemple, sur la question des violences sexuelles, j'aurais toujours le sentiment d'avoir un propos plus abouti, plus profond, plus sincère à travers mon roman qu'à travers n'importe quelle autre manière de raconter factuellement. Parce que je peux raconter le trouble de la mémoire qui m'a... Puisque j'ai été victime d'amnésie traumatique, j'ai oublié pendant plus de 20 ans ce que j'avais subi enfant. Ce trouble-là est très difficile à raconter. Et même parfois, je sens peu crédible pour certaines personnes. Et au moins, l'espace du roman vous laisse le temps de la complexité. Ce temps de la complexité, c'est très dur de l'avoir, ne serait-ce, alors le temps médiatique, n'en parlons même pas, mais ne serait-ce qu'autour d'une table avec des amis. Comment raconter cette complexité-là ? Comment employer les bons mots ? Et comment accepter aussi la part de flou ? Et le vrai, il est fait de beaucoup de flou. Et le roman vous laisse une part de flou qui est extraordinaire et qui, de ce point de vue-là, sera toujours plus proche du réel que n'importe quel récit fait à la première personne et sur la base du vrai, me semble-t-il.
On vous invite à la clarté de la lecture de « L'île du là-haut » de Adrien Borne, paru chez J.C. Lattès. La nouvelle bouquinerie. Recommandation de lecture, les lecteurs de la nouvelle bouquinerie et la lectrice que je suis s'est affairée pour ce mois-ci pour vous recommander des lectures, des moments d'évasion, d'introspection, de réflexion, de digression. Et on commence par « Couver un astre » de Sophie Fontanelle. Une digression ici de pensée suscitée par la présence de la vasque olympique dont vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient à Paris, pour ceux qui sont passés par Paris durant les Jeux olympiques. Et cette vasque était située à quelques mètres, quelques centaines de mètres du lieu de vie de l'autrice qui va nous raconter l'apparition de cet astre incandescent à sa vue qui va générer... Eh bien, une aspiration à des heures amoureuses, à un questionnement aussi sur sa place à cette heure amoureuse et aussi à cette place de cette œuvre auprès d'elle. On vous recommande chaudement « Couver un astre » de Sophie Fontanelle, paru chez Segers. Deuxième lecture, Iris Bray, « Le regard féminin, une révolution à l'écran » aux éditions de L'Olivier. Alors ici, on est sur une réflexion sur les codes cinématographiques qui permettent de placer le regard d'une femme à l'écran. Et on vous donne la recette selon l'autrice. Alors pour faire un film selon une femme, donc le female gaze, il faut narrativement que 1. Le personnage principal s'identifie en tant que femme. 2. Que l'histoire soit racontée de son point de vue. 3. Que son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Et enfin, d'un point de vue formel, qu'il y ait deux éléments respectés. La mise en scène qui est placée en fonction d'un ressenti féminin. Et que 2. Que les corps soient érotisés de façon consciente. Voici en tout cas ce qui a invité l'invitation de découverte par la nouvelle bouquinerie, Iris Bray, Le regard féminin, que je recommande aussi pour son travail qui s'appelle La culture de l'inceste, thème qui m'est très cher et qui est abordé avec courage et force par Iris Bray. Troisième lecture, Moi Gisèle, de Sandrine Bonini avec Annie Cogent aux éditions Grasset. Donc, il s'agit là d'un album destiné aux enfants qui retrace l'enfance de Gisèle Halimi et qui partage avec le lecteur la force du caractère de l'avocate mondialement connue, défenseuse des femmes. Nous vous recommandons enfin Le Phare de Valentin Maréchal aux éditions Jungle Ramdam. Il s'agit d'une bande dessinée retraçant l'histoire d'un parcours de désir au masculin, vers le masculin. Lou, qui est le personnage principal, âgé d'une trentaine d'années, une copine à ses côtés, un travail dans lequel il met toute son énergie, ne se sent plus à l'aise, il n'est pas vraiment lui-même. Et il va découvrir un autre versant de sa vie dans les soirées auprès d'hommes et l'équilibre va vaciller au fur et à mesure. Quand le couple va décider de vivre ensemble, l'appel pour lui va se faire de plus pressant pour aller vers qui il est, vers ce qu'il ressent émotionnellement et physiquement et trouver sa lumière à lui. La nouvelle bouquinerie touche à sa fin et elle a été réalisée par Nils Loret en présence d'Adrien Born. Merci de nouveau de votre présence.
Merci beaucoup.
Merci à Nicolas Puluen d'avoir été là également par téléphone à Mayotte avec mon petit loup et tous les artistes qui étaient à ses côtés pour cet ouvrage. Merci aussi à Mathilde, Julie et Marie pour le petit coin de lecture. On vous dit au mois prochain. Au revoir.